Dans son ouvrage « À la recherche du temps perdu », Marcel Proust écrit « On ne reçoit pas la sagesse, il faut la découvrir soi-même, après un trajet que personne ne peut faire pour nous, ne peut nous épargner. » La recherche de la sagesse est donc une quête individuelle difficile, mais le livre des Proverbes existe pour me guider, car son but est justement d'inculquer un peu de bon sens dans ma petite tête de linotte. Je continue de lire dans le chapitre 8 de ce livre. « C'est à vous, humains, que je parle. C'est pour vous que ma voix se fait entendre. À vous, stupides, apprenez donc à réfléchir. Et à vous, insensés, devenez des gens raisonnables. » Proverbes chapitre 8, les versets 4 et 5. Dame sagesse est vexante. Elle s'adresse à tous les êtres humains, mais plus particulièrement aux simples, qui, plus que les autres, ont besoin de ses conseils à cause de la naïveté qui les ouvre à toute influence, bonne ou mauvaise. Et deuxièmement, elle s'adresse aux insensés qui ont déjà donné les preuves de leur fâcheuse disposition. Où est-ce que je me situe? Je pourrais me classer parmi ceux qui ont réponse à tout et qui donc n'ont pas besoin de conseils. Ou alors reconnaître que je ne suis pas très futé, que souvent je fais des erreurs de jugement et prends la mauvaise décision. Mais comme c'est humiliant, je n'aime pas trop l'admettre. Je continue. Écoutez-moi, car j'ai à dire des choses dignes d'un prince, et ce sont des paroles justes qui franchiront mes lèvres. Oui, ma bouche proférera la vérité. Le mal fait aurore à mes lèvres, et mon palais proclamera uniquement ce qui est droit et vrai. Il n'y aura d'équivoque ni de retour dans mes paroles. Elles sont toutes claires pour qui a trouvé la connaissance. Toutes sont justes pour qui a de la science. Proverbes chapitre 8, les versets 6 à 9. Ce que dit Dame Sagesse est d'une importance capitale. Et on peut lui faire entièrement confiance. Elle nous fait part des conclusions de ses observations et de ses méditations. Elle exprime exactement sa pensée, laquelle est conforme à ce qui est vrai, c'est-à-dire à la réalité de la vie. Les paroles de sagesse n'ont pas de double sens et sont donc faciles à comprendre, du moins pour celui qui sait discerner le vrai du faux et le bien du mal. Matthieu rapporte que Jésus a dit aux Juifs. Jean-Baptiste est venu, il ne mangeait pas et ne buvait pas de vin. Et qu'a-t-on dit? Il a un démon en lui. Le Fils de l'homme est venu, il mange et boit, et l'on dit, cet homme ne pense qu'à faire bonne chair et à boire du vin. Il est l'ami des collecteurs d'impôts et des pécheurs notoires. Et cependant, la sagesse de Dieu se fait reconnaître comme telle par les œuvres qu'elle accomplit. Matthieu chapitre 11, les versets 18 et 19. Jean et Jésus sont tous deux des sages, et pourtant, ils ont adopté des comportements opposés. Mais ceux qui ont l'esprit retors ne comprennent ni l'un ni l'autre. Au final, Dame Sagesse ne se révèle qu'à ceux qui la recherchent avec un cœur droit. Celui qui aime la sagesse apprécie sa valeur et sait la reconnaître chez les autres et dans la parole de Dieu. J'entends souvent des gens qui n'ont jamais étudié les Écritures dire qu'elles sont difficiles à comprendre et truffées d'erreurs et de contradictions. Mais le comble et le pire des stupidités est que quand ils ajoutent « tout le monde sait ça ». Pour celui qui adopte une telle attitude, la parole de Dieu reste fermée comme une huître qui garde sa perle cachée à la vue de ceux qui ont un esprit de contradiction. Dans sa seconde épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul prend les Juifs comme exemple de mauvaise foi. Il écrit « Mais leur esprit est devenu incapable de comprendre. Aujourd'hui encore, lorsqu'ils lisent l'Ancien Testament, ce même voile de mort, il ne leur est pas ôté, car c'est en Christ qu'il disparaît. Aussi, jusqu'à ce jour, toutes les fois que les Israélites lisent les Écritures de Moïse, un voile leur couvre l'esprit. » Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. 2 Corinthiens chapitre 3, les versets 14 à 16. En d'autres mots, la personne qui accepte en toute sincérité de venir à Dieu par l'intermédiaire de Jésus voit les Écritures s'ouvrir à son esprit comme une fleur au soleil. Tous ceux qui disent avoir des difficultés d'ordre intellectuel avec les textes sacrés font erreur et sont confus parce que ce n'est pas dans leur tête que se trouve le problème, mais dans leur cœur. Quand la mer est limpide, on peut voir les poissons qui s'ébattent tout au fond, même jusqu'à 20 mètres d'eau. Par contre, dans une flaque boueuse, au milieu de chemins de terre, on ne distingue même pas une empreinte de sabot. Les mauvais coucheurs doivent d'abord se débarrasser de ce qui les aveugle, souvent par un parti pris, un vice, un style de vie contraire à l'enseignement des Écritures. Alors, le voile qui est devant leurs yeux et leur cœur est ôté par le Saint-Esprit. Et ils peuvent voir clairement que Jésus est la seule porte du salut et aussi trouver la vraie sagesse. La bonne nouvelle de Jésus-Christ, qui est entièrement révélée dans le Nouveau Testament, est simple comme bonjour. Il est impossible de ne pas la comprendre. Par contre, celui qui refuse de l'accepter a un problème qui vient non pas de sa tête, mais de son cœur, comme je l'ai dit. Tout comme un compteur Geiger permet de détecter la présence d'éléments radioactifs. La réaction d'une personne face aux Écritures indique l'état de son âme. Pour ceux qui aiment la parole de Dieu, l'aiguille du compteur de leur cœur s'agite parce qu'elle a détecté la vie. Pour d'autres, qui peuvent même être très religieux, l'aiguille reste pétrifiée parce qu'ils sont spirituellement morts. Je continue le plaidoyer de Dame Sagesse. Recherchez mon éducation plutôt que de l'argent et choisissez la connaissance plutôt que l'or. L'or, le plus pur. Car la sagesse est préférable aux perles précieuses, et les biens les plus désirables ne sauraient l'égaler. Proverbes chapitre 8, les versets 10 et 11. Le maître a déjà fait une comparaison similaire quand, dans le chapitre 3, il a dit « Acquérir la sagesse vaut mieux que gagner beaucoup d'argent. Les avantages qu'elle donne sont plus précieux que l'or, le plus fin. Elle a plus de prix que les perles, et aucun trésor que tu pourrais désirer n'égale sa valeur. » Proverbes chapitre 3, les versets 14 et 15. C'est peut-être du livre des Proverbes que vient le dicton breton « Mieux vaut sagesse que richesse ». Ceux qui se plient à l'enseignement de la sagesse reçoivent la connaissance dans le sens de savoir quoi faire et quelle décision prendre. Quand on se trouve dans une croisée de chemin, sans aucun porto indicateur, cette intuition, cette capacité de discernement n'a effectivement pas de prix. Dame Sagesse n'est pas contre les richesses. Tant s'en faut. Plus loin, elle développe l'idée que ceux qui l'apprécient à sa juste valeur reçoivent d'elle la capacité de gérer des biens matériels. Comparez Proverbes chapitre 8, les versets 18 à 21. Mais le plus important est que la sagesse permet à quelqu'un d'être intègre et de connaître la paix, qui sont des bénédictions que l'argent ou l'or ou les perles ne peuvent pas procurer. Je continue le texte. Moi, la sagesse, j'habite avec le savoir-faire et je possède la science des avis sensés. Proverbes chapitre 8, verset 12. Loin d'être une idée abstraite, la sagesse est un étalon mesure et un moyen d'évaluation très pratique. C'est un savoir-faire et du bon sens à n'importe quelle circonstance. Voilà pourquoi on a grand intérêt à l'écouter. Dans chaque cas particulier, elle donne le bon conseil et elle connaît le meilleur chemin. Je continue. Révérer l'Éternel, c'est détester le mal. Je déteste l'orgueil, la suffisance, la conduite mauvaise et la bouche perverse. Proverbes chapitre 8, verset 13. L'orgueil et la suffisance, ou arrogance, sont deux termes qui en hébreu proviennent de la même racine, gaat, être haut ou hautain. Ce procédé littéraire de répétition sert à exprimer la totalité d'une notion et de la présenter sous toutes ses faces. Au tout début du livre, le maître a déjà dit « La clé de la sagesse, c'est de révérer l'Éternel. » Proverbes chapitre 1, verset 7. Le texte établit une relation étroite entre trois concepts qui sont la sagesse, la crainte respectueuse de l'Éternel, la haine pour tout ce qui est mal, c'est-à-dire contraire au caractère de Dieu. La sagesse est un trait divin qui est d'ordre à la fois mental et moral, et qui a été révélé sous formes humaines par Jésus-Christ. La vraie sagesse consiste à connaître Dieu, à prendre résolument position pour lui et contre le mal, et en premier lieu, à ne pas avoir un cœur hautain. Dans la liste des 7 et 6 choses que l'Éternel déteste, Proverbe chapitre 6, les versets 16 à 19, l'orgueil occupe le sommet de l'affiche, la place d'honneur des tares humaines, parce que d'une manière ou d'une autre, l'orgueil est à l'origine des autres vices. Les proverbes dénoncent souvent l'orgueil. Je continue. C'est à moi qu'appartiennent les bons conseils et la prudence. Je possède l'intelligence et la puissance. C'est par moi que règnent les rois et que les princes décrètent des lois justes. Par moi gouvernent tous les chefs, tous les hommes d'État et tous les magistrats sur terre. Proverbe chapitre 8, les versets 16 à 17. Les bons conseils, l'intelligence et la puissance sont des caractéristiques divines qui sont également attribuées au Messie. Le prophète Ésaïe, au chapitre 11 et au verset 2, écrit que « l'Esprit de l'Éternel lui donnera l'intelligence, la sagesse, le conseil et la force ». Dans les évangiles, on voit que Jésus est toujours de bons conseils. Il sait comment diriger son équipe de disciples et, de sa force intérieure, émane une autorité indiscutable. La sagesse sert de ligne de conduite des bons dirigeants et un législateur sage se reconnaît dans les lois justes qu'il décrète. Par contre, les règles stupides, il y en a des wagons, proviennent de politiciens insensés ou véreux, et de cela, il y en a à perte de vue partout dans les chancelleries de ce bas monde. Ce qui me réconforte est la pensée qu'envers et malgré tout, c'est Dieu qui est assis sur le trône et qui dirige l'univers comme il l'entend. En effet, le prophète Daniel écrit « Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints, afin que tous les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il veut et qu'il élève le plus vil des hommes. » Daniel chapitre 4, verset 14. Je continue le texte. « Moi, j'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me recherchent ne manquent pas de me trouver. Auprès de moi se trouvent la richesse et l'honneur, la prospérité durable et la justice. » Proverbe 8, les versets 17 à 18. « Bien qu'elle soit disponible de tous, seuls ceux qui aiment et recherchent la sagesse la trouvent. Étrangère ou superficialité, elle est la source de biens durables et utiles, qu'ils soient d'ordre moral ou matériel. L'histoire de Salomon, qui a demandé la sagesse à Dieu afin de régner avec équité, est une illustration de cette vérité. Je lis le passage. Pendant la nuit, l'Éternel lui apparut là, en songe, et lui dit « Demande ce que tu désires que je t'accorde. » Salomon répondit « Veille donc donner à ton serviteur l'intelligence nécessaire pour administrer la justice pour ton peuple, afin qu'il sache discerner entre le bien et le mal. Sans cela, qui pourrait administrer la justice pour ton peuple qui est si nombreux ?» Alors Dieu lui dit « Eh bien, je vais réaliser ton souhait. Je te donnerai de la sagesse et de l'intelligence comme à personne dans le passé, ni dans l'avenir. De plus, je t'accorde ce que tu n'as pas demandé, la richesse et la gloire, de sorte que pendant toute ta vie, aucun roi ne t'égalera. » 1 roi, chapitre 3, les versets 5, 9, 12 et 13. Je continue de lire dans le chapitre 8 du livre des Proverbes. « Mon fruit est plus précieux que l'or, oui, même que l'or le plus fin, et les profits que je rapporte valent mieux qu'un argent de choix. Je marche continuellement sur la voie de la justice et je suis les chantiers de l'équité pour combler de bien ceux qui m'aiment et remplir leurs trésors. » Proverbe chapitre 8, les versets 19 à 21. Précédemment, le maître a dit que la sagesse est un arbre de vie. Proverbe chapitre 3, verset 18. Alors, parler de son fruit est logique. Le mot traduit par profit provient du monde des affaires. Dame Sagesse dit donc que ceux qui la recherchent et l'aiment obtiennent des avantages bien supérieurs à ceux que donne l'or ou l'argent. Et en plus, ils possèdent le savoir-faire pour générer des richesses matérielles. Je continue. L'Éternel me possédait tout au début de son activité et avant d'entreprendre les plus anciennes de ses œuvres. Proverbe chapitre 8, verset 22. À partir d'ici, commence un poème qui célèbre le rôle imminent de la sagesse dans l'œuvre divine de la création, ce que le maître a déjà mentionné dans le chapitre 3, les versets 19 et 20, mais seulement en esquisse. La sagesse personnifiée n'était pas seulement présente lors de la création, mais elle en a été le maître d'œuvre et la médiatrice. Les œuvres humaines et surtout le prodigieux génie de l'esprit humain sont un produit de la sagesse. Le maître décrit ce que le Créateur a réalisé par la sagesse afin de montrer encore une fois les avantages de la posséder. Ce passage se situe à l'arrière-plan de plusieurs déclarations du Nouveau Testament concernant Jésus-Christ, que l'apôtre Paul appelle « sagesse de Dieu ». 1 Corinthiens, chapitre 1er, versets 24 et verset 30. La sagesse est un attribut que Dieu possède de toute éternité et qui a donc existé avant la création du monde. Dans ce poème, le mot « avant » apparaît 5 fois. Proverbe chapitre 8, versets 22, 23, 25 et 26. Jésus aussi existe de toute éternité parce qu'il est le Fils éternel de Dieu. Je continue. J'ai été établi dès les temps éternels, bien avant que la terre ne fût créée. Proverbe chapitre 8, verset 23. La sagesse est officiellement établie dans ses fonctions pour superviser la création, faire régner l'ordre dans ce qui vient d'être créé, ainsi que gouverner l'univers. Ce verset, comme le précédent, font penser à Jésus-Christ que dans son épître aux Colossiens, au chapitre 1er, verset 15, Paul appelle « l'image du Dieu que nul ne voit, le premier-né de toute créature », et qui a joué un rôle actif dans la création. Les apôtres Jean et Paul écrivent « au commencement était celui qui est la parole de Dieu ». Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Tout a été créé par lui, rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. Jean chapitre 1er, les versets 1 à 3. C'est en lui qu'ont été créées toutes choses dans les cieux comme sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes et les seigneuries, les autorités et les puissances. Oui, par lui et pour lui, tout a été créé. Colossiens chapitre 1er, verset 16. Et Jésus dit de lui-même, « Je suis celui qui s'appelle Amen, le témoin digne de foi et véridique, celui qui a présidé à toute la création de Dieu. » Apocalypse chapitre 3, verset 14. Je continue le texte. « J'ai été engendré lorsqu'il n'y avait pas encore d'abîme, ni de source riche en eau. » Proverbe 8, verset 24. Les abîmes sont les nappes aquifères, les réserves d'eau sous terre qui communiquent avec la surface par des sources. La sagesse a été enfantée avant le second jour de la création, quand les nuages sont séparés des eaux d'en bas, c'est-à-dire les océans et les fleuves. Genèse, chapitre 1er, les versets 1 à 5. La sagesse existe d'abord en Dieu, puisque c'est l'un de ses attributs. Elle fut mise activement à contribution dans la création pour être ensuite donnée aux hommes qui la recherchent avec sincérité. Je continue. J'ai été engendré avant que les montagnes aient été établies, avant que les collines soient apparues, avant que Dieu n'ait formé la terre et les campagnes, ni le premier grain de poussière de l'univers. Proverbe chapitre 8, les versets 25 et 26. Il s'agit du troisième jour, celui de l'apparition de la terre sèche. Genèse, chapitre 1er, les versets 9 à 10. Je continue. Moi, j'étais déjà là quand il fixa le ciel et qu'il traça un cercle autour de la surface du grand abîme. Et quand il condensa les nuages d'en haut, quand il fit jaillir avec force les sources de l'abîme et quand il assigna à la mer des limites pour que ses eaux ne les franchissent pas, quand il détermina les fondements du monde. Proverbe chapitre 8, les versets 27 à 29. Ce passage est une allusion aux limites imposées par le Créateur à l'eau, qui est contenue dans les nuages, dans les abîmes, les sources ou les océans. D'après le récit de la création, Dieu a organisé et séparé tout ce qui a façonné en entités distinctes, la lumière des ténèbres, le ciel des eaux du dessous, le ciel des eaux du dessus, la terre des mers et le jour de la nuit. Genèse chapitre 1, versets 4, 6, 7, 9, 10, 14 et 18. Hormis les cataclysmes, les océans restent à leur place et ne se déplacent pas pour aller envahir l'intérieur des terres parce qu'ils se soumettent aux restrictions que l'Éternel leur a imposées. Je continue. J'étais aux côtés de l'Éternel comme son maître d'œuvre. Jour après jour, j'étais plein de joie devant l'œuvre accomplie, joie sans cesse en sa présence. Proverbe chapitre 8, verset 30. La sagesse personnifiée est décrite comme l'architecte de l'univers. Or, d'après d'autres passages, l'Éternel et Jésus sont tous deux créateurs. Ce texte nous confronte à la complexité de la personne de Dieu et au mystère de la Trinité avec, en plus, la sagesse comme participante active de la création. De plus, le livre de la Genèse nous informe aussi de la présence de l'Esprit-Saint au début de la création. Je continue. Je me réjouissais quand le monde et sur la terre, en mon bonheur était parmi les fils des hommes. Proverbe 8, verset 31. Une fois que la terre est devenue le séjour de l'homme, notre monde a revêtu une valeur particulière aux yeux de la sagesse, parce que dans l'espace-temps, elle exerce une action bienfaisante sur l'esprit et le cœur des êtres humains. Le livre des Proverbes est comme un manuel qui permet de la découvrir. Je finis de lire le chapitre 8. Maintenant donc, mes fils, écoutez-moi. Heureux tous ceux qui suivent les voies que je prescris. Écoutez mes instructions et vous deviendrez sages. Ne les négligez pas, car heureux l'homme qui m'écoute, oui, qui vient veiller à mes portes jour après jour et qui monte la garde devant leur seuil de ma maison. Car celui qui me trouve a découvert la vie. Il obtient la faveur de l'Éternel. Mais il se fait tort à lui-même, celui qui désobéit. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Proverbe chapitre 8, les versets 32 à 36. La sagesse parle comme un maître à ses disciples. Dans sa première épître, Jean écrit « Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » Cela, je vous l'ai écrit, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » 1 Jean chapitre 5, les versets 12 et 13. La sagesse donne la vie et la faveur de Dieu, tandis que la folie du mal conduit à la mort. Tels sont les deux choix qui se présentent à tout homme.